Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Et on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue à tous et à toutes. On est avec Gérard Leclerc qui est avec nous, éditorialiste politique. Bonsoir mon cher Gérard. Bonsoir. Joseph Massescaron, écrivain. Merci d'être avec nous. Merci, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Bonsoir Gilles Mintré, essayiste. Bonsoir, mon cher ami. On va parler de cette bonne nouvelle, il n'y en a pas beaucoup par les temps qui courent, la fin du port du masque dans les transports en commun, annonce faite par Olivier Véran en raison de la diminution des cas de Covid en France. Écoutez le ministre de la Santé.
À partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun dans notre pays. Plus obligatoire, mais recommandé. Pourquoi ? D'abord, cela s'inscrit dans la stratégie globale de réduction progressive des mesures de freinage en cours dans notre pays, parce que, comme l'a dit Gabriel Attal, la situation épidémique s'améliore. Nous ne sommes pas encore sortis de cette cinquième vague. La pandémie n'est pas terminée, mais le nombre de nouveaux diagnostics au quotidien diminue. La situation hospitalière s'améliore. Et donc, nous considérons qu'il n'est plus adapté de maintenir cette obligation de port du masque dans les transports en commun. Donc à partir de lundi 16 mai, ça fera un peu de respiration, d'autant que les températures sont en train d'augmenter dans notre pays.
Effectivement, voilà pour le ministre de la Santé, Gérard Leclerc. On note qu'il n'a pas parlé de l'obligation, la fin de l'obligation vaccinale pour les soignants. C'est deux sujets qui n'ont pas, ne sont pas corrélés pour l'instant.
Mais sur le masque, c'est logique, mais c'est bien. C'est logique parce qu'on suit ce que les autres pays ont fait avant nous, qu'il y avait un décalage dans l'épidémie. Et donc des pays comme la Grande-Bretagne, l'Espagne, etc. l'ont fait. Donc on arrive derrière. C'est un démenti à tous ceux. Il faut quand même rappeler qu'il y a un certain nombre de temps, des gens nous disaient que le masque, on n'en finirait jamais, que c'était... Qu'est-ce qu'on a entendu là-dessus,
hein?
C'était une façon de museler l'opinion, etc., etc. Bon voilà, tout ça est absurde. On a fait la politique qui n'avait rien de génial, mais qui a été menée à peu près dans tous les pays, qui a consisté effectivement, après des cafouillages au début sur est-ce qu'il faut le mettre, si on peut le mettre, etc. On n'en avait pas en plus. Et puis voilà, on arrive. C'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'on a vraiment la confirmation qu'on est en train de sortir.
Voilà, on mais est en train... Joseph Massescaron, le ministre de la Santé, dit aussi qu'il y aura forcément des variants à la rentrée, qu'ils sont déjà en train de circuler dans l'hémisphère, notre hémisphère.
Oui, en Afrique du Sud, notamment.
Voilà, et donc il va falloir être très prudent et que le masque, même si on l'enlève maintenant, il faudra s'apprêter à le remettre.
Ah bah écoutez, c'est simple, pour ma part, je vais continuer à le mettre dans les transports en commun. Je le dis franchement.
Responsabilité.
Je vais me faire tailler les coupières sur Twitter, mais c'est pas grave, je vais continuer à le mettre dans les transports en commun. J'étais à Londres ce week-end, la plupart des Anglais le mettent, même si c'est
obligatoire.
C'est obligatoire,
mais c'est très bien.
Ils le mettent parce que c'est un élément préventif. Donc il faut être là aussi, il faut être responsable, ne pas attendre toujours évidemment une décision verticale qui vient du haut pour vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire.
Voilà. Gilles Mintré.
Juste, pardon, Gérard Leclerc, en Espagne, il est toujours obligatoire dans les transports, parce qu'on parle bien du masque dans les transports. Ouais. En Italie, si vous prenez l'avion, les transports en Italie, il faut carrément un masque FFP2 aujourd'hui, qui est obligatoire. Donc il y a un petit décalage. Depuis le début de l'épidémie, il y a des pays qui font plus confiance à leur population, plutôt nord de l'Europe, et des pays qui ont toujours été plus rigoureux. Nous, on faisait partie des pays rigoureux. Là, on fait peut-être le pari de laisser plus d'autonomie aux gens. Je rappelle simplement que le problème du masque, c'est que ce n'est pas pour se protéger soi-même, c'est pour protéger les autres. Mmh. Et donc, on ne peut pas simplement s'en remettre aux gens pour être citoyen là-dessus. Et je note quand même aussi, le timing. On a eu, vous vous souvenez, mi-mars, formidable. Avant, on arrivait vers la présidentielle, on supprime le masque. Et puis là, on arrive à la législative, on supprime le masque dans les transports.
Non, c'était le pass sanitaire.
Oui, il y a le pass sanitaire, bien sûr, mais il y avait
et
aussi
là, le masque. Pardon. Oui, absolument, pardon. Vous avez inversé les deux.
Exactement.
C'est un heureux hasard. Joseph Massescaron.
Voilà, heureux hasard épidémique.
Allez-y, Joseph.
Sur les pays, en effet, sur les pays pour le masque, il y avait aussi, en ce qui concerne l'Italie et l'Espagne, c'est aussi des pays qui ont moins été vers le tout vaccinal comme nous avons été.
Absolument. Mmh.
Alexandre Devecchio, sur le masque.
On verra si c'est des fantasmes, effectivement, si ça revient une fois le gouvernement installé à la rentrée. Non, je ne pense pas. En tout cas, si la menace épidémique, il n'y en a plus, j'espère qu'on sera débarrassé du masque. Moi, après, je pense que faut faire confiance au bon sens des citoyens. Et je pense qu'effectivement, dans le métro, Moi, je déteste le masque, mais je le porte bien volontiers dans le métro parce qu'effectivement, c'est un endroit
ou
confiné.
Dans le train, ou dans l'avion. Ouais.
Effectivement, ça peut être utile. Maintenant, je me réjouis qu'on en ait fini, qu'on fasse confiance aux gens. Après tout, quand même beaucoup de gens vaccinés, ceux qui souhaitent avoir un surcroît de protection parce qu'ils sont fragiles, libre à eux de mettre un masque et un masque FFP2.
On a beaucoup dit que le gouvernement infantilisait les Français. Évidemment, on parle du confinement, du pass vaccinal, etc. Là, on lâche la bride complètement, Gérard. Il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus d'obligation du tout.
Oui, non, mais comme ça a été répété, le ministre l'a dit lui aussi, je veux dire, libre à chacun, c'est-à-dire ceux qui veulent continuer à le porter, bien évidemment, il n'y a pas d'interdiction. Simplement, je trouve qu'effectivement, c'est plutôt, oui, c'est une bonne chose de laisser davantage de liberté aux gens. C'est important à beaucoup de points de vue, et notamment au point de vue psychologique, quoi. L'idée qu'on...
Bien sûr.
Surtout à un moment où l'économie, de nouveau, montre des signes de faiblesse, en particulier à la guerre d'Ukraine. C'est voilà, l'idée qu'enfin, après 2 ans, parce que c'était quand même 2 années qui ont été très, très lourdes, qu'on redonne un peu de liberté aux gens, je trouve ça bien.
L'immense satisfaction, pardonnez-moi, c'est moi la liberté. Que de voir finalement à court d'arguments tous les antivax et toutes les personnes qui vont arrêter de nous bassiner en long, en large et en travers sur les réseaux sociaux.
Allez, quelques réactions françaises sur cette levée du port du masque obligatoire dans les transports avec Pierre-François Altermat.
Ah bah c'est bien ça.
Oui.
Bonne nouvelle, j'enlèverai.
Ah ben moi je vais continuer à le mettre un peu quand même parce que pour moi le virus circule encore. Donc je vais être prudent.
C'est super. Ouais. Moi j'en ai marre de la masque.
Moi je vais quand même continuer à le mettre.
Oui, pourquoi ?
Par précaution, voilà.
On le met plus nulle part, la situation sanitaire s'est améliorée et ça devient un peu ridicule de le garder dans les transports en commun. Et ça fait tellement longtemps qu'on le porte que ça ferait du bien de l'enlever partout et de l'oublier. Donc franchement, c'est une très bonne chose.
Gilles Mintré, un dernier mot sur ce masque et toutes ces mesures qui disparaissent avant peut-être de revenir à la rentrée, soyons prudents.
Oui, mais je pense que maintenant, il y a une conscience collective que c'est un virus qui sera largement saisonnier et qu'on a pris des habitudes. Et c'est vrai que pour que ces habitudes puissent s'installer dans la durée, voire dans la très longue durée, parce que c'est peut-être quelque chose qui va être très récurrent, il faut qu'il y ait des moments de respiration où il n'y a pas de masque.
Quand on voit ce qui se passe en Chine, effectivement, avec la stratégie du zéro Covid, où on séquestre les gens chez eux, littéralement, on se dit qu'effectivement, il y a un monde entre les deux façons de gérer et de juguler l'épidémie.
Oui, et on serait... C'est très intéressant de vraiment comprendre qu'est-ce qui, dans la stratégie chinoise, est de l'ordre médical, d'une population qui a moins été exposée et qui est peut-être effectivement plus fragile et qui est largement moins vaccinée. Qu'est-ce qui est quand même de l'ordre du rapport que les Chinois, la Chine, a avec la maladie, la mort, qui n'est pas la même chose qu'en Occident.
Avec l'individu aussi.
Avec l'individu.
Oui,
mais peut-être aussi se réjouir que quand même un pays d'1,5 milliard d'habitants, finalement, soit aussi rigoureux sur le Covid, parce que ça fait moins circuler le virus.
Se réjouir, je ne crois pas que les Chinois se réjouissent. Vous voyez les images,
je voulais dire que dans son... Je ne parle pas de maintenant, mais que dans les 2 années qui sont passées, qu'ils aient été très prudents au début à quand même aider à ne pas muter
le virus. Si nous tout petit peu aussi aidé, si nous étions aussi un peu prévenus, si on avait pu avoir accès au laboratoire, si, etc. Si, ça fait beaucoup. Parfois, je me demande, quand je vois des mesures qui sont de répression politique pure et simple, à mes yeux, qui rappellent vraiment Brésil, enfin tous les films orwelliens possibles et inimaginables, je me demande si ce que préparent les autorités chinoises, c'est un zéro Covid ou c'est un zéro Taïwan. Voilà. Bon, c'est la même chose. Non. C'est pas différent parce que c'est aujourd'hui l'obsession du gouvernement chinois. Hein, le gouvernement chinois, sa première obsession, ce n'est pas le Covid, c'est Taïwan.
Alors, en tout cas,
ils ont échoué sur la vaccination. Il faut quand même le rappeler. C'est pas rien. S'ils sont dans cette situation, c'est parce qu'ils n'ont pas vacciné.
Ça paraît quand même paradoxal. Je sais pas moi ce qui se passe en Chine qu'ils n'aient pas forcé leur population à se faire vacciner alors qu'ils laissaient le régime chinois n'a pas de normalement de ne se prive pas de contraintes.
Absolument. Allez, une toute petite pause, on se retrouve tous les quatre dans un instant, on va parler de la situation en Ukraine, on entendra le président Zelensky, il s'est adressé aux étudiants de Sciences Po cet après-midi lors d'une vidéoconférence, il a parlé des atrocités commises par les soldats russes. À tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On va évoquer l'Ukraine dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Sandra Tchombo.
Le
le Rassemblement national présente 569 candidats aux législatives des 12 et 19 juin prochains, parmi eux Marine Le Pen. Elle entend conforter sa place de première opposante à Emmanuel Macron. Selon Robert Ménard, le maire de Béziers, une majorité pour Macron serait un moindre mal face au danger que représente Mélenchon. Il appelle à une union des droites. À Marseille, un homme armé d'un couteau a été abattu par la police ce mercredi en début d'après-midi. Les faits se sont déroulés dans une zone commerciale du 11e arrondissement. Selon la police, l'agresseur se serait montré menaçant. Il s'est précipité sur les forces de l'ordre sans faire de blessés. À ce stade, la piste terroriste n'est pas évoquée. Un groupe d'épouses de militaires ukrainiens de la division Azov a rencontré le pape. L'entretien de 5 minutes a eu lieu ce mercredi à Rome. Ces femmes lui ont demandé d'intervenir pour sauver la vie des militaires. Ils sont retranchés depuis plusieurs semaines dans l'aciérie Azovstal, pilonnée par l'armée russe à Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine.
On va évoquer justement l'Ukraine avec le président Zelensky qui s'est exprimé en visioconférence devant les étudiants de Sciences Po à Paris. Il a décrit par le menu les atrocités commises par les soldats russes sur des Ukrainiens, notamment des enfants violés devant les yeux de leurs parents. Écoutons le président Zelensky.
Pourquoi les militaires russes qui ont occupé le territoire de l'Ukraine ont maltraité les gens avec autant de plaisir et en si grand nombre? Pourquoi non seulement ils ne faisaient pas que tuer les gens, mais aussi à les violer, à torturer? Pourquoi ils coupaient les têtes, coupaient les doigts ou brisaient les jambes? Comment pouvez-vous l'expliquer? Est-ce que c'était leur décision ou est-ce que c'était un ordre? Pourquoi une fille de 9 ans ou un garçon de 11 ans, pourquoi un soldat russe veut-il les violer sous les yeux de leur mère? On a fixé des milliers de ces cas. Il y a eu même un soldat russe qui a violé un bébé. Et il l'a filmé. Et ensuite, il l'a montré à tout le monde. Et combien de ces cas ont eu lieu sur le territoire occupé et dont nous ne savons rien pour l'instant? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis avaient commis des crimes terribles contre tous les peuples d'Europe, y compris contre les Ukrainiens, y compris contre les Russes. Dans 77 ans, beaucoup de choses a été faites pour préserver la mémoire de ces terribles crimes et on pensait que cette mémoire garantirait l'impossibilité de la répétition de ces crimes. Plus jamais. Et en même temps, les militaires russes, lorsqu'ils sont arrivés sur le sol ukrainien, ils ont fait la même chose que les nazis. Comment était-ce possible?
Voilà pour ce qu'a dit le président Zelensky aux étudiants français. Gilles Matré, il s'agit évidemment de décrire les atrocités qui ont été commises par les soldats russes et de frapper, évidemment, les opinions publiques, notamment la jeunesse.
Bien sûr, il continue une campagne de communication, mais au sens noble du terme, hein, où il innove. Zelensky brise tous les codes de la communication en camp de guerre comme en temps de paix. Il a fait la tournée de tous les parlements du monde, comme vous le savez.
Virtuellement,
à chaque fois, bien sûr. Et maintenant, il parle à des étudiants. On n'a jamais vu ça. Hein. Un président d'un pays en guerre qui veut parler à travers les étudiants à la jeunesse du monde. Il avait dit une fois, d'ailleurs, il avait appelé les citoyens du monde à aller dans la rue pour pousser les gouvernements à faire plus. Hein. Il joue sur une corde. Quand on dit que c'est la démocratie face à l'autocratie, il a aussi trouvé cette façon de parler directement aux citoyens du monde et donc aux étudiants. Moi, je retiens aussi deux choses quand même, hein, de ce qu'il a dit, qui, au-delà des atrocités... Après ce passage-là. D'abord, il a dit quand même un discours qui n'était pas du tout vers la négociation et vers la résolution rapide, hein, de la situation en Ukraine, puisqu'il dit à chaque massacre, c'était en lien donc avec ce qu'il avait fait, à chaque massacre, on a de moins en moins envie de négocier avec les Russes. Ce qu'il faut décrypter, c'est qu'à chaque massacre, lui-même a de... Parce qu'on sait bien que Zelensky a toujours été dans une posture plutôt de négociation, lui-même a de moins en moins les coudées franches pour pouvoir conduire cette négociation par rapport à ses oppositions, parce qu'elles existent, internes, et puis par rapport à sa population, comment on peut accepter un règlement. Puis le deuxième point, et donc c'est pour ça qu'il a dit, on veut récupérer tout le territoire ukrainien. Et on lui avait posé la question, enfin, c'était y compris la Crimée, donc on est vraiment sur un conflit long. Et la deuxième chose,
c'est qu'il a répondu quand même au discours d'Emmanuel Macron. Ah,
qui lui avait dit qu'il va falloir des dizaines d'années avant que l'Ukraine.
Des décennies avant d'entrer dans l'Union européenne. Mais vous inquiétez pas, on vous a créé un machin, c'est la communauté politique européenne. Mmh. Mais c'est très bien, vous serez avec les Albanais, les Macédoniens, les Kosovars.
Et les Britanniques.
N'oubliez pas les Britanniques
qui ont fait le Brexit.
C'est un club chic. Et réponse de Zelensky, moi j'ai trouvé formidable la formulation. Il a dit que vous ne pouvez pas vous fiancer, pas vous marier derrière. Vous ne pouvez pas dire, voilà, on va se fiancer, mais il n'y a aucune garantie. Mm-hmm. Le fait que se fiancer ne donnera aucune garantie pour se marier. On n'invite pas les gens, il ne faut rien leur servir à boire. Et je pense que vraiment, comme on l'avait déjà dit, hein, Emmanuel Macron, là, le 9 mai, il y avait un moment historique. Hein, la France préside l'Union européenne au moment de ce conflit.
Discours au Parlement européen.
Il a la possibilité d'envoyer un signal politique, de dire l'Ukraine sera européenne, ça va prendre des décennies, il va falloir pour converger, mais elle sera européenne. Maintenant, il a préféré dire, bah, on ne sait pas, mm-hmm. on vous propose un truc de seconde zone, et puis on verra plus tard.
D'accord. Alexandre Devecchio ?
Oui, moi je ne suis pas pour la création du machin, même si c'est très européen, finalement, ça correspond tout à fait à ce que c'est.
Ajouter une technostructure
voilà,
à la technostructure.
Une nouvelle technostructure et créer quelque chose de kafkaïen. Après, moi je pense que Emmanuel Macron a raison d'être raisonnable. Il l'a un peu fait, mais il aurait pu aller encore plus loin dans l'ivresse, justement, de se dire, je suis président de l'Union européenne, j'annonce des choses solennellement, je me fais plaisir. Ça a quand même des conséquences d'accueillir l'Ukraine. On ne cesse de répéter que l'élargissement à l'infini, c'est peut-être pas une bonne chose sur le plan démocratique, sur le plan de la force de l'autorité de l'Europe. Par ailleurs, si vraiment l'Ukraine intègre l'Union européenne, ça veut dire qu'on est solidaire en cas d'attaque avec la Russie. Donc ça implique beaucoup de choses. Je pense qu'il a eu raison de ne pas se faire plaisir, Emmanuel
Rapidement,
Macron.
Rapidement, Gérard et Joseph,
là-dessus, parce qu'après on va partir sur le terrain. La deuxième partie du développement d'Alexandre Devecchio, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut toujours dire comme ça, il faudrait que l'Ukraine intègre tout de suite l'Europe. Sincèrement, je pense que ça ne me paraît pas réaliste.
Et même
dans quelques années, ce sera très difficile parce que l'Ukraine est hélas dans un état terrible. Il y a la différence de tout point de vue, au niveau des économies, au niveau du niveau de vie, etc. Au niveau de il faut bien dire les choses aussi, de la corruption qui existe dans ce pays, etc. On ne voit pas comment l'Ukraine pourrait.
Ça, tout le monde est d'accord, Gérard.
Ah bah oui.
C'est pas ça la question.
D'où cette idée.
C'est la perspective.
D'où
tout
l'idée,
c'est
justement
ça.
La perspective.
Il y a des décennies pour être dans le machin ou des décennies pour intégrer l'Union européenne. C'est pas la même perspective. À un moment où l'Ukraine a besoin. Y compris pour
oui,
ça,
c'est pour ça qu'il faut, Dieu sait qu'il faut aider l'Ukraine, mais je pense que l'idée d'imaginer une Europe avec des cercles concentriques où au cœur vous avez les pays anciens qui acceptent d'aller plus loin dans l'intégration et à l'extérieur des pays qui ne sont pas prêts à cette intégration, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça n'est pas nouvelle, hein. Elle avait déjà été développée par Jacques Delors, si je me souviens bien, et par d'autres.
Jacques Delors
est reprise à un moment donné par Édouard Balladur. Donc voilà. Ça ne nous rajeunit pas. Oui. Non, simplement, là, pour le coup, Emmanuel Macron tient un langage de vérité. Donc, il faut lui accorder qu'il tient un langage de vérité. C'est la perspective, elle est extrêmement, mais extrêmement lointaine. Et puis, en France, on dit, mais attention, Emmanuel Macron est président de l'Europe. Il n'est pas président de l'Europe. Il y a plein de présidents en Europe. On a vu, il y a le président de la Commission, il y a le président du Parlement européen, il y a etc. Chacun a son mot à dire. Chacun, d'ailleurs, je pense, ne réfléchit pas toujours à ce qu'il faudrait dire. Parce que, quand même, les mots ont une importance. Ce n'est pas parce que Poutine peut dire n'importe quoi qu'il faut aussi dire n'importe quoi ou promettre n'importe quoi. Donc là, pour le coup, moi, je suis satisfait, en tout cas, des propos tenus par Emmanuel Macron.
J'aimerais qu'on s'intéresse à la situation militaire maintenant. En Ukraine, on voit que le seul succès des Russes, pour l'instant, c'est la ville de Kherson, où ils ont récupéré la ville. C'est à peu près la seule victoire militaire, pour l'instant, des forces russes. Et les pro-russes qui habitent cette région demandent maintenant à Poutine une véritable annexion. Récit de Yael Benamou, on en débat ensuite.
En mars dernier, les Ukrainiens impressionnés par leur courage. Ils manifestaient dans la ville de Kherson contre l'occupant russe. Kherson est la première grande ville dont se sont emparés les soldats de Vladimir Poutine après leur invasion de l'Ukraine. Une ville proche de la Crimée, annexée par Moscou en 2014. Ce 9 mai, ce sont désormais les pro-russes qui veulent marquer leur territoire. Ils célèbrent le jour de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de personnes défilent en portant des photos de leurs proches.
En 2014, on a essayé de sortir le jour de la victoire, mais cela a été très vite interdit par les autorités ukrainiennes. Maintenant, ce sera beaucoup plus facile.
La région de Kherson pourrait passer sous le giron russe. Les séparatistes comptent demander une annexion à Vladimir Poutine. Le porte-parole du Kremlin a déjà réagi.
Bien sûr, l'existence d'un tel appel à rejoindre la Russie devrait être décidée par les habitants de la région de Kherson. Il s'agit d'une question qui devrait être vérifiée et évaluée par des avocats. Ces décisions doivent avoir un fondement juridique clair, être absolument légitimes, comme ce fut le cas pour la Crimée.
La région a une position stratégique pour Vladimir Poutine. Elle permet de constituer un pont terrestre jusqu'au territoire russe.
Gilles Matré, c'est un véritable enjeu, cette ville de Kherson ?
Oui, c'est un véritable enjeu parce qu'on voit bien que quand on dit qu'on a basculé maintenant dans la guerre longue, dans presque la guerre qui peut être même gelée sur le terrain, c'est parce qu'il y a de plus en plus des choses qui veulent être présentées comme irréversibles, en tout cas qui seront de plus en plus difficiles à renverser, parce que les Russes cherchent à montrer que bien sûr, ils annexent comme ils l'ont fait en Crimée. Donc ils vont organiser un référendum dont évidemment... qui n'aura pas de valeur, parce que ne serait-ce que parce que pour trouver l'identité, pour démontrer l'identité des gens sur place, vous savez, les Ukrainiens ont un système d'identité électronique qui est à la main du ministère ukrainien, donc je ne vois pas comment les Russes vont pouvoir le faire, mais ce n'est pas grave, ils vont faire un simulacre et puis ils vont rattacher. Ce qui est inquiétant, c'est que vous vous souvenez, quand il y avait encore des négociations et des discussions, Kherson ne faisait pas partie des demandes, des objectifs russes. Hein. C'était concentré sur le statut du Donbass, la Crimée, et puis, on se souvient, la dénucléarisation, le refus de l'OTAN, le statut de la langue russe, etc. Et là, on voit bien que les Russes vont plus loin dans le sens des déclarations qu'ils ont fait il y a quelques semaines de vouloir annexer tout le sud de l'Ukraine. Et donc, on peut que considérer ça comme, à nouveau, une escalade très dangereuse.
Un signe alarmant, Alexandre Devecchio.
Mais ce qui montre que le refus de négocier peut se traduire par des effets négatifs pour l'Ukraine. Le jusqu'au boutisme de part et d'autre peut se faire au détriment de l'Ukraine. Encore une fois, si les Ukrainiens sont capables de gagner cette guerre, tant mieux, mais je ne suis pas un spécialiste, mais beaucoup n'en sont pas certains, sont même assez pessimistes. Donc la négociation était quand même une bonne option pour éviter qu'il y ait le moins de morts, pour faire qu'il y ait le moins de morts possible, d'abord, et ensuite peut-être pour éviter des pertes terrestres de territoires trop lourdes.
Gérard Leclerc, pas d'accord.
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que négocier, ça veut dire que c'est reconnaître, c'est accepter ce que veut faire Poutine, c'est-à-dire relier la Russie. Ici, le tour, là, on voit tout le vers l'est et le sud, jusqu'à au-delà maintenant de la Crimée, et pourquoi pas jusqu'à la Transnistrie. Si on négocie, on lui accorde ce qu'il a essayé d'obtenir par la force, ce qu'il a essayé d'obtenir en massacrant un pays, c'est quand même très compliqué.
Alors, Joseph Massescaron.
La démarche de Poutine est celle, la démarche traditionnelle des Russes depuis des siècles et des siècles, c'est-à-dire d'avoir l'accès, d'être les seuls à avoir accès aussi bien à la mer d'Azov qu'à la mer Noire, à ces mers noires qui sont des mers, c'est absolument essentiel. C'est essentiel d'ailleurs, d'abord pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons symboliques, pour des raisons d'identité, donc pour des raisons culturelles, cultuelles aussi. Donc c'est en effet, là, on voit bien que ce qui est en train de se dessiner est très clair, c'est-à-dire priver l'Ukraine, cette partie de l'Ukraine, d'accès aux mers. Voilà. Et ça, c'est absolument inacceptable. Pour négocier, il faut être deux, hein, je rappelle quand même, pour négocier. Oui, et je doute quand même que Poutine soit dans cet état de
situation. Il m'intéresse en bloquant les ports ukrainiens, de facto, il bloque toute l'économie ukrainienne.
Oui, alors on est très loin du blocage des ports ukrainiens, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout par l'ouest, par Odessa, qu'il y a encore...
Mais enfin, Kherson est sur la route.
Oui, absolument. En fait, Kherson, c'est surtout le réservoir d'eau de toute la Crimée, et donc à la fois plus en plus de sa position stratégique. Hein, c'est une façon de rendre la Crimée viable, alors qu'en fait, elle est très difficilement viable économiquement. Là, la question, c'est qu'effectivement, maintenant, on voit que les combats se concentrent dans le Donbass. Il va y avoir maintenant que, parce que vous disiez, il n'y a que Kherson qui est tombé, on peut considérer que Mariupol est tombé. Il y a une résistance héroïque, extraordinaire, mais qui ne va pas renverser le cours des combats à Mariupol, malheureusement. Il faut juste réfléchir à comment est-ce qu'il y a une possibilité, si minime soit-elle, d'une médiation pour sauver ces militaires qui ne veulent pas se rendre, parce qu'ils ont le choix entre la mort et la mort. Donc il y a peut-être une médiation nécessaire. Mais donc on voit bien que là, on voit se concrétiser
des objectifs territoriaux russes dont on pensait que c'était peut-être que de la rhétorique au début.
Et donc, ce n'est pas que de la rhétorique.
Non.
C'est aussi des faits militaires.
Absolument.
Merci. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va parler de pouvoir d'achat avec Michel-Édouard Leclerc. On parlera d'inflation, de croissance et de prix des produits de grande consommation. Avant cela, bien sûr, il est 18h30, le rappel des titres de l'actualité.
Mort d'Antoine Alénaud, le chauffard présenté à un juge d'instruction ce mercredi. Cet homme interpellé peu après les faits a été déféré hier soir au tribunal judiciaire de Paris à l'issue de sa garde à vue. Une information judiciaire a été ouverte notamment pour homicide et blessures involontaires aggravées. Il pourrait être mis en examen et placé en détention provisoire. Scandale des pizzas surgelées Buitoni, Santé publique France publie un rapport. 56 cas dont 2 décès en lien avec une contamination à la bactérie E. coli ont été identifiés en France au 4 mai. Une dizaine de plaintes ont été déposées, la dernière en date hier. L'Afrique du Sud face à une 5e vague de contamination au Covid-19. Elle est portée par 2 sous-variants d'Omicron. Selon un épidémiologiste sud-africain, l'expérience vécue sur place peut guider le monde entier et l'aider à se préparer à vivre avec le Covid.
Voilà pour les titres de l'actualité avec Sandra Tchombo. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. Le pouvoir d'achat, principale préoccupation des Français. Michel-Édouard Leclerc est là dans un instant. Il nous parlera des mesures que le gouvernement va prendre et de ce qu'il fait, lui, dans ses hypermarchés. A tout de suite.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec notre invité ce soir, Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir.
Bonsoir.
Président des centres Leclerc, bien sûr. Merci d'être là. On a gardé Gérard Leclerc. Comme ça, ouais. On vous êtes entre Leclerc. Je rappelle que vous n'êtes pas de la même famille.
Enfin, on ne sait pas.
Oui, vous ne savez pas. Mais on va parler de toute façon de pouvoir d'achat parce qu'évidemment, c'est la principale préoccupation des Français. Il y a de nombreux nuages noirs, Michel-Édouard Leclerc, qui s'accumulent sur l'économie française, sur fond de hausse de l'inflation, de remontée des taux d'intérêt, de faible croissance. Si on rajoute la perspective de la hausse des prix en permanence, il y a une véritable inquiétude de la part des Français. Est-ce que vous voyez les choses en noir pour les prochains mois, vous aussi ?
Oui, alors je suis un homme d'action, je ne positive pas, mais ça déclenche chez moi l'envie d'en faire plus. Et dans mon métier, il y a beaucoup, dans la distribution, on est très, très actif en ce moment, chez Intermarché, chez Carrefour, ça. Et donc, on est en mode combat, c'est le retour de l'inflation. Alors,
peut monter jusqu'à quoi ? On parle de 10% en décembre.
Ouais. Alors, vous voyez ça, vous aussi ? L'indice des prix est formulé d'une manière telle que beaucoup de choses sont lissées, mais en tout cas, cet été, je pense qu'on sera à l'indice de prix aux alentours de 6-7%, et puis ça peut continuer après si le conflit ukrainien continue, s'il y a des effets de sécheresse. Enfin, on parlera des différents types d'inflation. Et c'est sûr que du point de vue de ceux qui ont peu de revenus, du point de vue de ceux qui en vivent aussi, de l'économie, c'est une source d'inquiétude. Mon secteur est en mode combat. Chez Leclerc, on est en mode combat. Enfin, pardon pour l'analogie guerrière, puisqu'elle n'est peut-être pas de mise, mais l'idée, c'est de trouver des solutions.
Alors, on va voir tout de suite avec Yael Benamou quels sont les produits qui ont le plus augmenté. On va essayer de comprendre pourquoi avec vous après. Écoutons.
Les tickets de caisse vont encore gonfler avec une augmentation prévue dans le secteur de l'alimentaire de 6,3 en juin. Le prix d'un panier moyen composé de 31 produits dits essentiels, 1 kg de pâtes, 1 litre d'huile d'olive ou bien un paquet de biscuits au chocolat, a augmenté de 4,6% en l'espace de seulement 5 mois. Certains produits participent beaucoup à cette tendance. D'après l'association 60 millions de consommateurs, en un an, le prix des pâtes alimentaires a augmenté de 13,8% par rapport à l'année dernière. La hausse de la viande surgelée est aussi significative. Elle coûte 9,7% de plus qu'il y a un an. L'huile végétale n'est pas épargnée avec une augmentation de 6,9%. Acheter du café torréfié coûtera en moyenne 6,5% de plus. Et enfin, pour le beurre, c'est une augmentation de 4,9%. Résultat, les Français font plus attention. Ils consomment par exemple moins de produits bio.
Voilà pour ces explications. Michel-Édouard Leclerc, pourquoi ces produits augmentent tant ? Les pâtes, qu'est-ce qui se passe ? C'est le blé, évidemment, qui est en question ?
Il y a plusieurs raisons, quoi. D'abord, avant de parler de l'Ukraine, si le blé, si les pâtes ont augmenté depuis l'automne dernier déjà, c'est parce qu'il y avait eu des mauvaises récoltes, une mauvaise météo l'année dernière. Et donc ça, c'est une réalité. Les céréales ont augmenté l'année dernière et puis ça continue d'augmenter.
La volaille. On a pas encore l'impact de la guerre en Ukraine.
Avant de parler d'impact sur la guerre en Ukraine, qui est, dont les conséquences pour les consommateurs sont pour la plupart à venir, à se rajouter, il y a aussi cette fameuse grippe aviaire, fameuse horrible grippe aviaire qui a tué une grande partie du cheptel de volaille en France, et donc qui fait que le poulet est plus cher, mais aussi les œufs, parce qu'il y a moins de poules pondeuses, etc. Donc ça, c'est une chose. Il y a une deuxième raison, c'est que le gouvernement a aussi voulu un rattrapage pour les revenus des agriculteurs. Et donc, par un jeu de lois successives qu'on appelle EGalim, désormais, les coûts de production agricole sont répercutés dans toute la chaîne, dans toute la filière alimentaire. Et c'est maintenant, là, l'inflation que vous voyez, c'est la conséquence des négociations commerciales.
Mais ça protège les agriculteurs et les producteurs.
Nouvellement encadrées par l'État. Donc il y a une partie de l'inflation qui a été voulue, qui a été voulue. Alors ça arrive peut-être au mauvais moment, mais donc ça, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Si, mais faut vous dire aussi que moi, je vais me battre contre l'inflation. Mais ces revenus agricoles, pendant cinq ans, on était en déflation. Donc a, là, c'est du rattrapage pour le revenu des agriculteurs. Ça tombe pas au bon moment parce que ça se rajoute, mais ça s'explique, ça s'explique. Donc maintenant, il y a, le gouvernement vient d'entendre aussi les industriels avec leur facture d'énergie, la sortie du Covid, le coût des transports, les conteneurs qui ont augmenté. Donc il a demandé à ce qu'on renégocie avec les industriels. Et là, ben c'est pire que ce qu'on avait à négocier en janvier-février. Par exemple, aujourd'hui, si on s'en tenait aux demandes des industriels, sur 60% du chiffre d'affaires d'un centre Leclerc, la demande est de l'ordre de 8% à se rajouter à ce qui est en train de se passer maintenant.
Donc, là. Ça a augmenté
du on va négocier. Donc on va négocier, ça va discuter, ça restera courtois, on va le faire avec discernement, mais on va demander les justificatifs avant de faire passer ces chiffres. Mais c'est pour vous montrer qu'avant même de parler de l'Ukraine et des conséquences qui vont se rajouter, déjà, dans l'économie française, il y a des causes objectives, il y a des raisons objectives, certaines contraintes, d'autres voulues, qui font que les prix augmentent.
Gérard Leclerc, une question.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu cette conjonction, ça a été très bien décrit, et malheureusement, ça risque de continuer, parce que la sécheresse qui est annoncée, et donc à première vue, une baisse des rendements agricoles, enfin tout ça, plus les restes, il ne faut pas oublier, si je puis dire, le post-Covid. Vous avez quand même un pays comme la Chine qui pour l'instant est arrêté, oui. Or c'est l'usine du monde et toute une série, notamment, notamment de l'industrie automobile, les semi-conducteurs n'arrivent pas, etc. Enfin, il y a toute une série, il y a des goulots d'étranglement comme ça qui se créent, et donc tout ça s'ajoute et pour arriver à l'inflation qu'on connaît.
Michel-Édouard Leclerc, vous aviez annoncé il y a quelques jours la mise en place d'un bouclier sur certains produits. Il y a 120 articles les plus achetés par les consommateurs. Est-ce qu'il est en place ? Est-ce qu'il fonctionne ? Oui. Est-ce que les consommateurs l'achètent ?
L'idée, vous voyez, on essaye de tous de rationaliser ce qui est en train d'arriver. Mais là-dedans, il faut trier, sans jeu de mots, le bon grain de livrer. Il y a aussi une financiarisation du marché des matières premières. Il y a des gens qui achètent des matières premières et qui ne sont pas industriels.
Parce qu'il y a la spéculation.
Il y a des coûts à faire. Il y a des coûts à faire. Donc, nous, après les matières premières, il y a les industriels qui ont des factures. Les industriels repassent leurs factures aux transformateurs. Puis après, les grandes marques, ils nous demandent de les refiler aux consommateurs. Moi et mes collègues des centres Leclerc, et d'ailleurs les gens qui font mon métier, on dit, bon, attendez, ça fait beaucoup là. Hein. Un mur d'inflation, c'est tout le magasin qui bouge, dont les prix commencent à bouger. Donc, on n'a pas envie non plus de donner aux spéculateurs quitus sur leur bon coup, quoi. Et donc, je pense qu'il faut négocier, faut prendre le temps de négocier. C'est quelque chose qui nous oppose un peu au gouvernement. Le gouvernement nous dit, allez, faites-nous bouger ça. Enfin, une partie du gouvernement nous dit, ne tuez pas l'emploi, ne tuez pas l'industrie. Puis de l'autre côté, chez le maire et à Bercy, on nous dit, attendez, pour les consommateurs, c'est terrible. Donc, moi, je fais mon boulot, je négocie. Et par exemple, aujourd'hui, je trouve que la flambée sur le verre, la flambée sur le carton, plus 40%, la flambée sur
le verre, la bouteille de verre, hein, on est d'accord.
Ouais, alors, c'est sûr, les industriels n'en trouvent pas. Mais même s'il y a un goulot en Chine, et même si sur l'alimentaire, il y a un goulot en mer Noire, à l'échelle du globe, ça me paraît quand même beaucoup, beaucoup d'inflation, même si ça a une justification. Et donc, faut demander la justification. Faut être transparent. Et aujourd'hui, les industriels ne sont pas assez transparents. Je veux pas polémiquer pour rien, mais la loi Egalim 2, créée par Julien de Normandie, avait pour objectif de rendre tout ça transparent, y compris d'aller chercher un tiers, un commissaire aux comptes, approbateur, etc. On n'a pas ça pour le moment. Donc, au risque d'apparaître comme le méchant, moi, je trouve qu'on a 18 millions de clients dans les centres Leclerc. Avant de leur refiler la patate chaude, moi, je veux vérifier les factures.
Sans pour autant pénaliser les producteurs. Vous restez avec nous, Michel-Édouard Leclerc. On continue à parler de pouvoir d'achat avec les prochaines mesures proposées par le gouvernement. Juste après, le rappel des titres de l'actualité avec Sandra Tchambo.
Volodymyr Zelensky face aux étudiants de Sciences Po ce mercredi. En direct de Kiev, le président ukrainien s'est adressé à eux par visioconférence. Il regrette que l'OTAN n'ait pas trouvé une place à l'Ukraine avant la guerre. Il a déclaré « si l'Alliance avait intégré l'Ukraine, il n'y aurait pas eu de guerre ». Le masque ne sera bientôt plus obligatoire dans les transports. La dernière grande restriction anti-Covid va disparaître en France dès lundi prochain. L'annonce a été faite par le gouvernement. Peu après cette déclaration, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a annoncé la levée de la même mesure dans toute l'Union européenne. Retour des maths dans le tronc commun à la rentrée. Les élèves dès la première sont concernés. Jean-Michel Blanquer l'a annoncé ce mercredi. En plus des 2 heures d'enseignement scientifique, 1h30 devrait être ajoutée. Depuis la réforme du lycée en 2019, les maths ne faisaient plus partie des matières enseignées à tous les lycéens.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Michel-Édouard Leclerc. On parle de pouvoir d'achat, on a évoqué l'inflation, il y a la hausse aussi des taux d'intérêt, il y a la faible croissance. Si on rajoute à cela la hausse des carburants, le tableau est complet. Écoutez les réactions des Français recueillies par Arthur Muriot sur cette hausse du prix des carburants.
Dans cette station de banlieue parisienne, comme partout en France, les prix à la pompe frôlent et parfois dépassent à nouveau les 2 euros par litre de carburant. Une hausse qui exaspère certains clients.
On fait que payer, payer, payer. Ça n'arrête plus, quoi. Ça n'arrête plus. On ne sait pas où on va terminer, comment ça va se finir, mais on n'arrête pas de payer, c'est tout.
Ça coûte assez cher. Surtout, bah, là, je suis tout jeune permis, donc ça, j'arrive au mauvais moment, on va dire. C'est assez compliqué de finir le mois avec l'essence.
D'autres, en revanche, prennent leur mal en patience.
C'est pas terrible, mais je pense pas qu'on puisse faire autrement. Enfin, moi, ça me gêne pas trop parce que je prends exceptionnellement le scooter, je suis toujours à vélo.
Ah, on essaye de limiter les déplacements, quoi, et puis de prendre les moyens de transport quand c'est faisable, quand c'est possible.
Grâce à la remise de 15 à 18 centimes mise en place par le gouvernement, le prix du litre de carburant avait baissé, de quoi soulager le portefeuille des Français, mais pour quelques semaines seulement. En effet, le litre de sans-plomb 95 a augmenté de 11 centimes en un mois. Plus 12 centimes pour le sans-plomb 98 et enfin plus 11 centimes en un mois pour le gazole. En un an, ce dernier a même connu une augmentation de plus de 50 centimes, soit une hausse de 36%. Pour faire face à cette envolée des prix, le gouvernement travaillerait sur une aide plus significative et plus ciblée qui entrerait en vigueur au mois d'août.
Michel-Édouard Leclerc, le petit coup de pouce des 18 centimes, il est déjà complètement absorbé par les hausses. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous commencez les opérations à prix coûtant sur les carburants?
Oui, et pour ça, j'insiste, au risque que ce soit mal interprété, la loi climat, normalement, au 22 août, je ne peux plus faire de la pub sur les prix coûtants. Je peux faire des opérations au prix coûtant, mais pas le dire. Donc ça, vous avouerez que c'est quand même un peu antithétique, en tout cas, ce n'est pas très motivant. Donc moi, ce que je demande au pouvoir public, ce que Leclerc demande au pouvoir public, c'est de lever provisoirement cette interdiction et qu'on puisse continuer à faire des opérations à prix coûtant, parce que oui, je pense que c'est très important. D'abord, nos magasins sont souvent à la sortie des villes, et puis pour aller au travail en province, nous, on utilise beaucoup les carburants, donc nous voudrions pouvoir continuer à le faire. Je pense que par ailleurs, le gouvernement va maintenir le bouclier énergétique, puisque de toute façon, si on ne peut plus s'approvisionner en pétrole ou en gasoil russe, ça va coûter quand même plus cher d'aller le chercher au Moyen-Orient, voire dans le golfe du Mexique.
Mais faut que les mesures soient plus ciblées. Là, c'est tout le monde. Est-ce qu'il faut cibler les gros rouleurs? Est-ce qu'il faut un chèque alimentation? Est-ce que c'est la bonne solution, pardon?
Moi, je pense qu'il y a plusieurs dispositifs à mettre en place. Il y en a qui ressortent du domaine public et du domaine privé. Tout à l'heure, vous avez évoqué cette idée de bouclier qu'on a repris dans les centres Leclerc. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a négocié 100, 200 articles parmi les plus consommés, on va essayer de les garantir pendant 3 mois, pendant 4 mois, et puis on va agrandir cette liste. Un bouclier, on est privé, c'est ce qu'on garantit à nos clients. Et si les prix augmentent là-dessus, on compensera avec du ticket Leclerc.
Est-ce que c'est une bonne idée, le chèque alimentation que propose le gouvernement? 50 à 60 euros pour les personnes qui touchent les minima sociaux.
Je pense que c'est une idée qui se rajoute à d'autres. Je suis assez pour le chèque ciblé. C'est vrai, comme le disait Emmanuel Macron, que peut-être, Gérard ou vous, on n'a pas besoin... Enfin, on est tous preneurs, mais on a des niveaux de vie qui fait qu'on n'est pas les premiers destinataires d'une aide de l'État alimentaire. Et donc, l'idée de cibler des aides, que ce soit pour la rénovation des bâtiments ou même pour ceux qui ont besoin d'acheter de la bonne nourriture, moi, je suis pour. Mais par contre, j'ai entendu dire que pour le moment... On voulait faire en même temps 2 choses, je fais exprès de dire en même temps, c'est à la fois d'éducation alimentaire pour aller vers des produits bio, des produits plus durables, et en même temps que ce soit moins cher. Enfin, dans la réalité, ce dont on besoin...
C'est pas compatible.
Bah, les produits bio, on a bien vu, même aujourd'hui, ça se casse la figure. Moi, je mange bio, hein, mais ça se casse la figure. C'est 40-50% plus cher que des produits locaux, des produits naturels. Donc, ils se sont un peu aussi trompés dans le bio, aussi, sur le niveau de prix à vendre. Hein. C'est devenu un marché un peu sélectif. Moi, j'espère que ce chèque alimentaire concernera d'abord une population la plus large possible, mais sur des produits de consommation courante, de nécessité. Et puis, il faut laisser les consommateurs choisir ces produits-là. Sinon, on va faire plaisir à des corporations. On ne va pas résoudre un problème social, un problème de pauvreté. Hein.
Gérard Leclerc.
Oui, 2 choses. Je pense effectivement qu'il faut des mesures qui soient plus ciblées, notamment sur les carburants, ça me paraît évident, parce qu'il y a vraiment des gens qui en ont besoin plus que d'autres.
Les gros rouleurs, ceux qui ne peuvent pas faire autrement.
Bon, à côté de ça, d'autres gens de catégorie aisée qui roulent en SUV, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable, qui payent l'essence moins cher. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même rappeler... C'est pas le gouvernement qui est responsable seul du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord des salaires. Les salaires, elles sont distribués par les entreprises. Et là, je crois qu'il y a quand même... Alors, bien évidemment, c'est très compliqué. On ne peut pas parler de façon générale, parce que vous avez des entreprises qui ne peuvent pas accorder d'augmentation de salaire parce que la situation de l'entreprise est telle qu'elles ne peuvent pas. Mais il y en a d'autres, à mon avis, qui peuvent. Et sans là aussi tomber dans la caricature, c'est vrai que quand il y a des distributions de dividendes qui sont importantes, ça me paraîtrait assez logique qu'il y ait quelque chose qui soit fait également pour les salariés.
Et je trouve que c'est... Même si c'est exprimé de manière un peu techno, notamment par le président de la République, mais l'idée de payer le salaire avant de payer le dividende, d'augmenter les salaires avant d'augmenter les dividendes, enfin, conceptuellement, c'est une bonne idée.
Et l'idée du dividende salarié aussi.
Oui, c'est ça. Mais moi, je crois, par exemple, dans les centres Leclerc, c'est par contrat. Chaque exploitant d'un magasin Leclerc doit s'engager au premier profit à reverser 25% sous forme de ce bénéfice, sous forme d'intéressement et de participation au personnel. Et c'est respecté, hein, parce que derrière la marque Leclerc, on fait attention. Alors, il y a ça. Il y a je pense aussi que on est dans une période où le salaire c'est aussi par la création d'emplois, et donc parce que les emplois nouveaux font rentrer des salaires, nous dans nos métiers avec le digital, avec la mutation des modes de livraison et tout, on est gros créateurs d'emplois, et ça aussi ça va mettre de la masse salariale en circulation. Là je dis les choses un peu de manière presque publicitaire, mais moi je pense qu'il faut donner aussi des images positives quand c'est concret. Nous on va créer quand même 7000 emplois cette année. 7000 emplois c'est des salaires distribués, quoi. Et dans nos conventions on donne 13 mois de salaire. Je sais pas dans le monde des médias si vous avez 13 mois de salaire, mais par l'idée du président de la CFDT de travailler par branche, je pense qu'il y a des branches qui sont plus exposées pour qui l'augmentation de salaire est plus un coût, et puis pour d'autres, un coût à l'international, et pour d'autres, ça participe aussi de la défense du pouvoir d'achat.
Vous avez déjà vu une modification du comportement des consommateurs dans vos magasins ?
Ah ben oui. D'abord, il y a une mesure qui... Vous savez, normalement, on doit aussi supprimer les tickets de caisse au 1er janvier. On ne se précipite pas, parce que moi, je pensais...
C'est important de garder le ticket de caisse.
Mais oui, parce que c'est un rapport de confiance. Mais regardez à la sortie des caisses, tout le monde regarde son ticket. Beaucoup de gens sont à 5 euros près, peut-être pas à 1 euro près, mais sont à 5 euros près. Et puis, il y a une autre disposition qu'il faut lever. Est-ce que vous savez qu'on m'oblige à prendre 10% de marge quand on vend du chocolat, du café? Théoriquement, c'était pour aider les revenus agricoles. Enfin, tous ces produits-là n'enrichissent pas l'agriculture française. On ne produit pas de cacao et de café en France. Même quand je vends du Ricard, on m'oblige à prendre 10%. Théoriquement, pour les agriculteurs, ça doit revenir aux agriculteurs. Cette théorie du ruissellement, c'est du pipeau. Donc aujourd'hui, alors que l'inflation va aller vers les 10%, je réclame le droit de pouvoir compenser ces hausses en baissant les marges.
Un tout petit mot, vous vouliez préciser quelque chose. Vous aviez dit sur mon plateau la semaine dernière, oui, à propos des pénuries d'huile, vous avez fait le lien avec les moutons et l'aïd, vous vouliez préciser les choses.
Oui, j'ai blessé des personnes et ce n'est pas dans ma nature et je suis quelqu'un de sensible. Donc j'ai reçu une belle
volée
de bois vert sur les réseaux sociaux. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'à l'occasion des fêtes, et notamment quand on fait des fritures, quand on fait de la pâtisserie, on a vendu beaucoup d'huile. Et donc il y a eu des ruptures dans les rayons. C'est pas pour autant qu'il y aura pénurie, mais en même temps, en le disant, j'ai parlé de la communauté musulmane et je voudrais m'en excuser parce que je ne voulais stigmatiser personne. C'est déjà une population qui est déjà suffisamment stigmatisée, et donc, et notamment à l'égard des salariés des centres Leclerc qui sont pratiquants, je fais amende honorable. Je crois que c'est important quand on dit des conneries de savoir ravaler sa langue.
Pénurie, il y en aura pas.
Le rapport de confiance que j'ai historiquement avec les consommateurs, ça fait quand même 60
plusieurs
ans,
années qu'ils vous connaissent. Et,
ouais. J'aime autant qu'on me fasse confiance et donc.
Bien sûr, vous avez raison de faire
humblement. Je bats ma
coupe. Un tout petit mot, il y aura pas de pénurie.
Moi, je pense que jusqu'à l'été, il y a du stock. Alors, c'est pas toujours. Même le PDG d'Invivo qui a du stock. Invivo, c'est grand ou Avril, qui sont des grands groupes agroalimentaires. Ils ont du grain même à l'ouest de l'Ukraine. Le problème, c'est que ça coûte plus cher d'aller le chercher. Les assurances. Ça va être plus cher. Jusqu'à l'été, normalement, il y a du stock d'huile, de blé, etc. Mais par contre, ça va être plus cher. Et il faut accepter la concurrence. Et je pense que l'idée de compétition, quand l'inflation revient, elle est au service du consommateur.
Merci beaucoup, Michel-Edouard Leclerc, d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews
merci
et sur Europe 1. Et merci, Gérard Leclerc, merci de CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews avec ses invités dans Face à l'Info. Et je vous retrouve sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos invités Jean-Claude Dacier, la éditorialiste. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Jeannette Bougrave, essayiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Alexandre Chevaux du service politique d'Europe 1. Merci d'être resté avec nous.
Bonsoir.
Et puis nous sommes avec Gilles Mintré, essayiste. Merci d'être là aussi, cher Gilles Mintré. Bonsoir. On va commencer par la situation en Ukraine. En écoutant d'abord le président Zelensky, il s'est à nouveau adressé par visioconférence, cette fois aux étudiants français, aux étudiants de Sciences Po Paris. On va écouter ce qu'il leur a dit. Il leur a parlé d'un certain nombre de choses, mais notamment sur l'OTAN. Il a estimé que si l'Ukraine avait fait partie de l'OTAN, il n'y aurait pas eu de guerre.
En ce qui concerne l'Ukraine, malheureusement, l'erreur était le fait que l'OTAN n'a pas trouvé une place pour l'Ukraine au sein de l'Alliance avant la guerre. Je suis absolument persuadé que si l'Ukraine avait été admise à l'OTAN, il n'y aurait pas eu de guerre.
Alors oui, évidemment, mais Gilles Mintré, est-ce que c'est une option qui n'était pas envisageable de toute façon?
C'est la poule et l'œuf. C'est parce que précisément l'Ukraine voulait entrer dans l'OTAN que la Russie, enfin en tout cas, c'est l'argument de la Russie, a réagi. Donc il aurait fait, voilà, ça ne pouvait pas se faire de jour au lendemain. Et on est au cœur de ce qui est le problème. Ça, maintenant, c'est une option, il l'a dit lui-même, hein, Zelensky, qui est plus sur la table. Ça a été dès le début du conflit, une très forte ouverture qu'il a faite. Qu'est-ce qu'on va trouver comme mécanisme de sécurité collective? Parce que là, vous avez vu le secrétaire général de l'ONU aujourd'hui, il y a eu des propos très, très justes en disant il faut, comme disait Emmanuel Macron, il faut maintenir le contact avec Vladimir Poutine. Aujourd'hui, il n'y a plus de négociation. Il n'y a pas d'avancée sur...
Il n'y a pas de prochain rendez-vous.
Il n'y a pas de prochain rendez-vous. Alors, c'est compliqué de savoir parce que les Ukrainiens et les Russes continuent à dire qu'ils ont des... Voilà,
des
par visioconférence, ils ont des contacts. Mais il n'y a pas de négociation. En revanche, un jour, il y en aura. Et on se souvient que le point qui était sur la table, c'est quel mécanisme de sécurité collective. Comment est-ce que l'Ukraine peut accepter un statut de neutralité tout en ayant des pays qui se mettent d'accord pour garantir d'une manière beaucoup plus forte que le fameux mémorandum de Budapest, vous vous souvenez, qui avait échangé, dans lequel l'Ukraine avait rendu ses armes nucléaires contre une protection de plus de grands pays occidentaux. Là, il faudra quelque chose de plus engageant, de plus structuré. Et c'est ce qui était sur la table, qui est en train de discuter. Et ça a un écho particulier, parce que donc là, on parle de l'OTAN, mais au même moment, Zelensky a aussi parlé de l'Europe, mais ça fait partie de cette même équation. Parce que l'entrée dans l'Union européenne fait partie des solutions de ces possibles garanties de sécurité. Là, il a envoyé quand même on aimerait dire une pique si les choses n'étaient pas aussi graves, à Emmanuel Macron en disant, la Confédération politique européenne, c'est comme quand vous
Parce qu'Emmanuel Macron avait dit, ça va prendre des décennies l'adhésion à l'UE. Oui. On vous propose autre chose, une espèce de confédération politique.
Voilà.
Vous pouvez venir.
Un nouveau machin. Et donc, du coup, vous pouvez entrer dedans. Mais en fait, ça ne préjuge en rien votre entrée future. Alors, il y a quand même des questions à préciser. Est-ce que le fameux article 42.7, vous savez, du traité européen...
Non, je ne sais pas, expliquez-moi. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir.
Qui est la clause de solidarité, qui est moins forte que l'article 5 de l'OTAN. Voilà, puisqu'elle n'oblige pas à intervenir militairement si un des pays est attaqué, mais qui demande de faire les meilleurs efforts pour aider, parce que c'est une clause qui est censée prendre en compte les pays neutres de l'Union européenne, comme l'Autriche, qui ne peuvent pas avoir un accord militaire. Est-ce qu'une clause de ce type-là peut être prévue dans la Confédération européenne ? Ce que Zelensky voulait, c'est évidemment une perspective Union européenne.
Alors, Jean-Claude Dacier, ou Jeannette Beaugrand, peut-être d'abord.
Moi, je n'aime pas la pique à Emmanuel Macron. Vous n'allez pas m'entendre souvent dire ce genre de choses, mais je trouve ça pas bien parce que je trouve que la France a fait beaucoup d'efforts et le président Emmanuel Macron l'a fait. Ce qu'il propose est intéressant et il a raison de dire parce qu'il y a d'autres pays qui sont candidats dans l'Union européenne, qui ont connu aussi des destins ou un passé douloureux. Et de dire c'est parce que l'OTAN n'était pas là, c'est aussi oublier que la question du respect des accords de Minsk, un certain nombre de points qui avaient été faits et que l'Ukraine ne respectait pas, la question en matière de réforme à l'intérieur, c'est pas. Je trouve que, et Jean-Pierre Chevènement avait cette phrase il y a quelque temps, on peut pas sans arrêt attaquer la France. Moi, je pense que la France a pris sa part sérieusement. Qu'elle a essayé de maintenir un équilibre pour pouvoir, en tout cas, pouvoir organiser l'après. Voilà. Et je pense que ça, c'est important. C'est qu'aujourd'hui, on parle de proxy-guerre, c'est-à-dire une guerre par intermédiaire. C'est-à-dire que si vous prenez le canard de demain, c'est la guerre par procuration. Et donc, du coup, c'est important. Ça. Je pense qu'on ne peut pas sans arrêt accepter d'être attaqué alors que la France va livrer des canons César, à tel point que certains disent qu'on est co-belligérant de cette guerre. Et donc, l'idée d'inventer quelque chose de nouveau n'est pas stupide, n'est pas idiot. Je me souviens qu'à un certain temps, Alain Juppé parlait des cercles concentriques. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'Europe a...
Plusieurs niveaux d'Europe,
oui,
en fait.
Oui, bien sûr, de coopération plus ou moins intégrée, etc.
Ce serait ça, Jean-Claude Dacier ?
Bon, écoutez, je voudrais dire d'abord que globalement, je trouve que le président Zelensky parle trop.
Il en fait trop.
Et je pense que la situation est déjà d'une extrême complexité. Et qu'il est bizarre, puisqu'il y a quelques semaines, peut-être quelques jours, il nous a expliqué que ça y est, l'OTAN, il oubliait que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN, on n'en parlait plus. Il ramène le dossier de l'OTAN aujourd'hui en parlant aux étudiants de Sciences Po. Tout ça ne me paraît pas raisonnable. Et il faut, si on peut réussir à trouver, ça ne va pas être facile, une espèce de protocole qui permette déjà d'arrêter...
Les massacres des civils,
etc. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Il y en a d'autres qui en rajoutent beaucoup, c'est les Américains. Et on ne sait pas très bien quel est leur objectif. Quand on vote, je crois que ça a été fait hier ou ce matin, 40 milliards, combien ? 45 milliards d'aide, bravo à l'Ukraine, bravo, mais c'est quel objectif ? En réalité, c'est l'Amérique qui poursuit ses buts de guerre, son but de guerre. Faire la peau de Poutine, c'est possible, j'en sais rien. Affaiblir la Russie, c'est sûrement vrai, pourquoi pas ? Juste un petit problème, c'est que c'est l'Ukraine qui paye en vies humaines et en réfugiés.
En atrocité.
Tout ça me paraît, et je trouve que Biden et Zelensky devraient être un peu plus prudents dans leur expression publique. Pour autant, j'ai pas une once de générosité à l'égard de l'attitude de Poutine et de l'attitude qui est la sienne en Ukraine. Mais si on veut essayer de s'en sortir, c'est pas la peine. Si on rajoute des milliards, on va rajouter des milliards. La guerre va durer pendant 10 ans. Si c'est ce que l'on souhaite, on est bien parti pour. Il faut qu'on trouve une solution et qu'on le veuille ou non. Alors, je vais me faire agonir, mais qu'on le veuille ou non, c'est la zone d'influence russe. Regardez comment les Américains ont réagi quand on est allé les chatouiller à Cuba et même au Chili. Bon. Alors, il faut trouver une solution qui permette à l'Ukraine, qui veut entrer dans l'Union européenne, mais ce n'est pas possible aujourd'hui. C'est impossible. On ne sait même pas quel sera le régime politique et si M. Zelensky sera encore au pouvoir demain. Donc, ce n'est pas possible, ce n'est pas sérieux. Je réclame le silence un peu dans les rangs et que les diplomates travaillent.
Alors, juste un petit mot d'Alexandre Chevaux.
D'où l'initiative d'Emmanuel Macron pour tenter de créer...
Alors, en effet.
Ses critiques disent qu'il veut créer une Europe à deux vitesses, mais c'est pour essayer de contourner...
C'est pas nouveau.
Oui.
Il reprend l'idée de François Mitterrand d'une confédération européenne qu'il avait lancée en 1989, qui n'avait pas fonctionné. Mais l'idée, c'est voilà, de sans adhérer à tout ce que l'Union européenne propose, sans adhérer à l'euro, sans adhérer à la PAC, de, sur certains points, bénéficier d'une coopération renforcée. Il mettait en avant
si les c'est jouable avec les Russes, allons-y, fonçons. Voilà. Je ne suis pas sûr.
Il y a encore des contacts prévus entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, à votre connaissance?
Pas à ma connaissance. Il y en a eu un il y a une semaine ou 10 jours, je crois. Mais à chaque fois, ça se solde par le même résultat. Ça n'infléchit pas la politique de Vladimir Poutine.
On fait une toute petite pause. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1. On continue à parler de l'Ukraine, parce que je sais que vous avez encore tous beaucoup de choses à dire. On parlera aussi de la Finlande, qui s'apprête à adhérer à l'OTAN et qui dit « ça ne sera mais contre personne ». Évidemment, on y revient dans un instant dans Punchline. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, Jeannette Bougrabe, Alexandre Chevaud d'Europe 1 et Gilles Mintré, essayiste, ancien diplomate à Moscou. On va juste évoquer ce que je mentionnais, l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, qui ne serait pas, dit le président finlandais absolument affolé, ne serait contre personne, parce qu'évidemment, Moscou avait mis en garde Helsinki sur les conséquences de cette demande d'adhésion. Vous connaissez bien ce pays, Jeannette Bougrabe?
Ce serait une rupture, en tout cas, dans l'équilibre que la Finlande avait trouvé, puisqu'on parlait de finlandisation, une forme de neutralité, alors qu'il y avait parfois un côté très péjoratif, mais il faut savoir que l'histoire de la Finlande est un État indépendant comme l'Ukraine. C'est des pays qui ont été reconnus très tard, c'est au lendemain de la révolution russe, et qu'ils ont 1300 km de frontière avec la Russie. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu comme l'Ukraine, c'est-à-dire qu'ils ont été du côté de l'Allemagne nazie. Enfin, moi, c'est pour ça que j'étais un peu surprise du discours. Tout le monde a trouvé très émouvant, et il était le discours de Zelensky, mais il oublie qu'une seule chose, c'est que l'Ukraine a été du côté, la Shoah par balle. Moi, c'est pour ça que cette période-là, j'ai l'impression qu'on réécrit l'histoire. Mais en tout cas, sur la question de la Finlande, ils ont quand même un petit contentieux parce qu'il y a une partie d'un bout de territoire qui a été pris par la Russie, qui est la Carélie, et que la jeune Premier ministre, c'est un changement de génération. Elle n'a plus le même rapport avec la Russie. Et en fait, quand ils ont annoncé, jusqu'à, comme moi j'étais en Finlande, c'est-à-dire il y a déjà plus de 3 ans, il n'était pas question, l'opinion publique était majoritairement, très très majoritairement contre l'adhésion à l'OTAN, c'était la Suède. Et quand on posait aux Finlandais, quand les Suédois disaient « mais on doit adhérer à l'OTAN », ils disaient « vous inquiétez pas, la Russie, on s'en occupe ». Parce qu'il y a une forme de résilience et la force de la Finlande, c'est qu'ils ont une armée, il y a le service national, tous les garçons font leur service national à 19 ans, et ils vont s'entraîner à la frontière en Laponie, donc... Et donc, c'est un véritable changement. C'est un bouleversement d'équilibre. Et il y aura des conséquences. De penser que c'est contre personne, c'est faux. C'est faux, parce qu'ils ont 1300 km et qu'ils se disent ce qui est arrivé à l'Ukraine pourrait très bien nous arriver à nous.
Et mise en garde de Moscou immédiate, Gilles Mintré.
Oui, mais l'OTAN, la grande organisation qui a émergé, qui est vainque de ce conflit, cette guerre-là, c'est l'OTAN. On voit bien qu'il y a une différence radicale entre être membre de l'OTAN et pas être membre de l'OTAN. Donc ça a complètement fait changer les opinions publiques en Suède et en Finlande. Et on comprend. Et donc, quand on parle d'Europe de la défense, il va falloir maintenant penser l'Europe de la défense conjointement avec l'OTAN. C'est une réalité. C'est aujourd'hui l'organisation qui assure la paix en Europe. Et c'est là que ça revient sur le débat qu'on avait sur l'Ukraine. Puisqu'on dit à l'Ukraine, vous ne serez jamais dans l'OTAN. Au moment où tout le monde veut être dans l'OTAN. Mais vous n'y serez jamais. Donc il faut bien qu'on leur trace une autre perspective. Et quand on dit qu'on leur trace une perspective européenne, c'est pas pour maintenant. Tout le monde sait que ça va prendre des décennies. Mais c'est capable de leur dire dès maintenant quelque chose qui puisse être une compensation, qui est un chemin d'espoir, pour permettre d'accepter une négociation, pour permettre de mettre fin au massacre de civils. Parce que si jamais c'est ni l'Europe ni l'OTAN, les Ukrainiens n'arrêteront jamais. Ils se battront jusqu'au bout. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire. Et je suis un peu inquiet que compte tenu des réticences des uns des autres, Emmanuel Macron C'est pas lui qui est en cause. Il n'avait pas non plus les coudées franches pour pouvoir annoncer une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Il est président de l'Union européenne, mais
il parle avec ses autres. Il y a des procédures.
Bien sûr qu'il y a des procédures.
Puis c'est un pays en guerre, accessoirement.
Mais une fois de plus, en 93, on avait dit aux pays d'Europe centrale, vous entrerez dans l'Europe, c'est une certitude. Ça va prendre des décennies, ça a pris des décennies. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire ça à l'Ukraine. Alors que, bien sûr, on va faire un plan Marshall pour l'Ukraine. On va payer pour reconstruire l'Ukraine. Ben, autant qu'elle soit dans l'Union européenne.
Mais je n'ai pas réellement entendu ça quand Ursula von der Leyen est allée voir Zelensky. Je n'ai pas eu le sentiment qu'elle était sur ce que vous dites. J'avais le sentiment qu'elle allait dire, justement...
Non, mais Emmanuel Macron était sur une autre ligne hier.
En tout cas, la Commission, Charles Michel, à nouveau en présent. Donc, on a le sentiment quand même que l'Union européenne va faire un effort considérable pour permettre, en tout cas, de l'entrée de l'Ukraine, même si, effectivement, le degré d'exigence ne sera pas le même pour l'Ukraine pour un certain nombre de raisons.
Oui, sauf que Macron dit l'inverse.
Il n'est pas la même chose. Voilà. Jean-Claude, l'Europe de la défense, c'est un mythe pour vous ?
C'est pas un mythe, c'est à construire, et ça sera évidemment très long, puisque la France et l'Angleterre étaient les seuls à disposer d'une véritable armée. Bon, pour le reste, c'était de l'assistanat, on prêtait des masques et des véhicules, donc je comprends qu'un certain nombre de pays européens considèrent que défense européenne n'existe pas et qu'ils sont en danger quand ils voient la Russie attaquer l'Ukraine pour les raisons que l'on a dites et redites. En même temps, moi, ce qui me rend très inquiet, quand même, c'est que l'Europe se tend à nouveau. On retrouve des réflexes
d'élargissement.
Guerre froide, puisque la Finlande, il faut rappeler aux jeunes générations ce qu'était la finlandisation. Dans le face-à-face qui a duré 40, 50, 60 ans, entre le bloc soviétique et le bloc occidental, il y avait donc l'OTAN. Et puis, il y avait un pays qui avait une neutralité qu'on avait appelée la finlandisation. C'était une trouvaille, une stratégie diplomatique qui faisait que la Finlande était à part. Au jour d'aujourd'hui, elle exprime son inquiétude en disant peut-être que nous aussi, ça serait bien qu'on entre dans l'OTAN. Comment voulez-vous que les Russes prennent ça comme un geste amical ? Donc, on est dans une situation complexe. Et que l'Ukraine entre dans l'Union européenne, honnêtement, je ne vois pas comment ça peut être possible à court terme.
Non, mais pas à court terme.
Ah non, ça, c'est
bien sûr, ça va mettre des dizaines d'années. Mais il s'agit.
On est d'accord.
La question, c'est est-ce qu'on envoie le signal dès maintenant ou est-ce qu'on leur dit non, écoutez, vous allez passer des décennies dans la Confédération européenne sans aucune garantie de rentrée.
Ouais, je ne vois pas comment on est capable à l'heure actuelle. Il faudra que le rapport de force s'établisse. Au fond, c'est toujours la même histoire. Il faudra que les armes payent.
Elles sont en train de parler.
Elles parlent, oui, mais on ne sait plus très bien au profit de qui. Et un soir, on est optimiste pour l'Ukraine qui a l'air de se refaire dans telle ou telle ville qui refait une partie du terrain. Dans une autre, on voit que les Russes attaquent Odessa à coups de canon. Et donc, ça y est, maintenant, ils vont foncer à Odessa. Pour être franc, les images de guerre, on ne les voit pas beaucoup. Et c'est sans doute une volonté des deux parties. Et donc, honnêtement, pour expliquer et pour essayer d'avoir la certitude d'un certain rapport de force sur le terrain, moi, j'ai renoncé.
Un dernier mot, Jeannette, après on avance.
Moi, ce que je regrette, et je le dis assez ouvertement, c'est que normalement, Joe Biden devrait aller rencontrer Vladimir Poutine. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des pays d'Europe centrale, de toute façon, ils ont une espèce de rupture vis-à-vis de la Commission européenne. Les mauvaises relations de la Pologne, la mauvaise relation avec la Commission européenne, les mauvaises relations de la Hongrie avec la Commission européenne, c'est quand même très difficile de se dire qu'on va construire une Europe de la défense, alors qu'ils ont cette espèce de rapport tendu. Et c'est bizarre qu'on arrête sans arrêt de parler d'Europe de la défense, alors qu'elle est morte parce que c'est nous-mêmes qui l'avons rejeté en 1954. Donc, quand on voit en fait l'arsenal militaire qui est acheté dans ces pays-là, ils n'achètent qu'américains, y compris les Allemands.
Bien sûr.
On va juste avancer un tout petit peu pour parler de politique française. Il y a eu le dernier conseil des ministres du gouvernement Castex aujourd'hui, Alexandre Chauveau. On va juste écouter Gabriel Attal, le porte-parole, l'ancien porte-parole, sur ce qu'a dit Emmanuel Macron aux ministres, aux 41 ministres, je crois, du gouvernement Castex. Écoutons-le.
Le président a eu un mot de remerciement appuyé pour le gouvernement et pour Jean Castex, qu'il a remercié chacune et chacun pour le travail qui a été fait. Il a indiqué qu'il y a près de 2 ans, Jean Castex a accepté de diriger un gouvernement de combat. Il a dit avec solennité et affection qu'il avait été très fier d'être autour de cette table avec Jean Castex et avec son gouvernement ces 2 dernières années.
Cette fois, c'était bien le der des ders de ces conseils des ministres de Castex, oui. Alexandre.
Oui, Jean Castex qui va s'en aller presque 22 mois après sa nomination. Il avait été nommé en pleine crise Covid au mois de juillet 2020. On peut noter que son départ correspond avec la fin du port du masque obligatoire dans les transports. C'est l'ironie de l'histoire. Jean Castex, on peut considérer que voilà, il a fait le boulot, il a été nommé pour son côté technicien, pour aussi son, c'est pas une offense, mais son absence d'ambition. Emmanuel Macron voulait quelqu'un qui puisse avancer sur les dossiers techniques sans lui faire d'ombrage, ce qu'il reprochait un peu à, sans lui faire d'ombre, ce qu'il reprochait un petit peu à Édouard Philippe. Donc voilà, c'est un ministre qui s'est voulu populaire, qui a capitalisé sur son accent du Sud-Ouest, on a beaucoup parlé de ça. Il y a sa communicante qui a publié une de ses dernières photos à Matignon, où il est en train de faire une passe avec un ballon de rugby à un de ses conseillers. Donc
ça y est, c'est la fin.
Voilà, il laissera l'image d'un Premier ministre populaire.
Et Jeannette Bourra, mais il y a beaucoup...
Il est vraiment populaire, parce que si je regarde le sondage de Paris Match, il est parmi... je pensais que c'était Édouard Philippe, la personnalité...
Non, mais c'est comme ça qu'il a voulu se vendre, je veux dire, proche du peuple.
D'accord. Mais c'est très étrange, les Zénards, cours des comptes très populaires, c'est très proche du peuple.
Il a fait beaucoup de déplacements, 350 déplacements, je crois, en moins de 2 ans. À chaque fois, il allait en province pour expliquer, monter son projet.
Mais quel projet ? Enfin, pardonnez-moi, mais...
Son action à la tête du gouvernement.
Non, c'est que vous avez fait une émission sur la question du pouvoir d'achat. C'est quand même très étrange de se dire que... Aujourd'hui, des gens ne peuvent pas manger, ne peuvent pas faire leur plein d'essence, ne peuvent pas faire ci, et de se dire que ce combat-là, ben, on n'a pas gagné le combat contre la pauvreté, on n'a pas gagné le combat contre la panne de l'ascenseur social, on n'a pas gagné le combat...
Mauvais, quand même, hein. On n'est pas les plus mauvais, quand même.
Sur l'échec scolaire rien.
Oui,
sur les discriminations.
Mais il y a des difficultés partout.
Non, c'est pas vrai. Dans
moi,
un pays.
Non, tout en noir, mais enfin,
non,
y a des limites,
non.
Quand
on regarde sur le plan.
Jean-Claude, laissez-la terminer.
Non. Quand on regarde la question aujourd'hui dans le classement PISA, on peut dire tout ce que l'on veut.
Oui, on est loin,
dans les premiers, c'est un des premiers, c'est l'Estonie. Ouais. Alors, je veux bien que, compte tenu que l'Estonie, c'est la Finlande, et donc, du coup, compte tenu de l'investissement budgétaire qui est fait en termes d'éducation nationale, on a un système qui est le plus inégalitaire, c'est-à-dire qui démultiplie les discriminations. Et vous vous rendez compte qu'il a fallu attendre 5 ans pour se dire qu'il fallait réintroduire les maths, et donc on vient d'apprendre aujourd'hui qu'on va réintroduire 3h30 de maths et de sciences dans le programme.
Oui, encore faut-il trouver des professeurs pour ça. Et donc au CAPES cette année, il y avait 1000 postes ouverts et 800 candidats seulement.
Mais c'est le c'est le déclassement. On parlait de la Finlande.
C'est un échec terrible d'éducation nationale.
Quand un stagiaire agrégé gagne 1 700 euros quand ils commencent. En Finlande, ils sont à 3 000 euros. Ben voilà, donc
très
après...
On fait une petite pause, on continue sur ce débat politique française. On revient dans un instant dans Punchline sur Europe 1, tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur CNews avec Jean-Claude Dacier. Non, on est sur Europe 1, pardon, excusez-moi, c'est la fatigue. Jeannette Bougra, Alexandre Chauveau et Gilles Mintré. On va évoquer, Alexandre Chauveau, avec vous, le gouvernement. Il se fait attendre. Ça y est, ça a été le dernier conseil des ministres de Jean Castex. On attend la nomination du futur ou de la future Premier ministre pour quand ?
Alors, vendredi ou samedi, Jean Castex devrait démissionner ces jours-là, vendredi ou samedi, et donc le Premier ministre dans la foulée. On sait qu'Emmanuel Macron sait qui sera son ou sa future Premier ministre. On ne sait pas si l'heureux ou l'heureuse élu est au courant. Il y a 2 derniers noms qui ont circulé ces derniers jours. Audrey Azoulay, ancienne ministre de la Culture sous François Hollande, patronne de l'UNESCO, qui correspond un peu ou prou au portrait robot femme plutôt de gauche que souhaitait Emmanuel Macron. Et l'autre nom
qui était au cabinet de François Hollande quand il était président, qui faisait partie de la concierge culture à l'Élysée de François Hollande.
Exactement. Et l'autre nom qui est sorti, c'est Anne de Bézère. C'est une haute fonctionnaire qui a travaillé avec Bertrand Delanoë. C'est l'ancienne bras droit d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Elle a travaillé avec lui à l'Élysée. Avec les autres noms qui sont sortis, Véronique Bédague, Valérie Rabault, on voit que Emmanuel Macron veut conserver la main sur l'aspect politique des choses.
On voit surtout qu'on n'est pas du tout dans un régime parlementaire, c'est-à-dire que on cherche un Premier ministre. Les noms qui sont évoqués sont des noms qui ont des CV qui parlent pour eux, hein, en termes de, mais qui ne sont pas des élus, qui ne conduisent pas un programme, qui ne représentent pas une majorité au Parlement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron là, quand il critique Jean-Luc Mélenchon, quand il a parlé à ses investis, il a dit « mais ne laissez pas les Français croire qu'on va pouvoir refaire aux législatives, retrancher un débat qui a été tranché par la présidentielle ». C'est la lecture qu'a Emmanuel Macron des institutions, c'est un régime présidentiel, l'élection présidentielle, l'élection législative n'est que la décalque de cette élection-là, et donc on va s'attendre probablement à une très forte abstention, parce que si jamais il n'y a pas d'enjeu, bah pourquoi se déplacer
pour
voter ?
C'est la tradition de la Ve République. C'est pas
ça, c'est depuis,
je vais apprendre.
Ça, c'est depuis l'inversion.
Pompidou n'était pas élu de la République.
Ça, c'est depuis le quinquennat et l'inversion du calendrier.
Oui,
non, c'est pas la tradition. C'est très récent.
Oui,
c'est très récent. Et bon, voilà. Est-ce que C'est un choix, c'est un régime présidentiel, mais avec quand même la possibilité de dissoudre l'Assemblée.
Est-ce qu'il y a un sujet sur le fait que ça dure tant et que finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un gouvernement au travail et qui gère les dossiers, notamment du pouvoir d'achat ?
Non, parce qu'il y a la question, l'administration française fonctionne, n'a pas pratiquement... Vous savez, c'est comme la Belgique, moi j'ai été frappée, c'est-à-dire que pendant un an, ils n'ont pas eu de Premier ministre, ça continue de fonctionner, parce que quand vous êtes un État fort, vous avez une administration, ça continue de tourner, et voilà. La seule chose, c'est qu'on voit bien, c'est cette hyper-présidentialisation, cette hyper-personnification du pouvoir, le fait qu'il veut être le maître des horloges. Moi, je trouve que c'est pas toujours très respectueux à l'égard des gens qui lui ont... Puisqu'on s'est tous mobilisés, en réalité, c'est ça, pour faire un barrage. On nous a expliqué plein de choses. Et de l'autre côté, c'est comme s'il s'amusait de ce temps gagné. Et je trouve que compte tenu des enjeux qu'il y a sur le plan international, sur le plan de la politique intérieure, sur l'inflation, sur les inquiétudes des Français. Est-ce que c'est le moment de jouer un peu comme ça? Moi, je trouve ça pas bien. Voilà, mais...
On sait que le gouvernement réfléchit à présenter en Conseil des ministres, avant les législatives, le texte de loi sur le pouvoir d'achat, avec l'indexation des retraites sur l'inflation, avec le
point d'indice, peut-être
le dégel du point d'indice sur les fonctionnaires,
les bas salaires,
la revalorisation des minimums sociaux et le chèque alimentaire qui pourrait passer de 50 à 60 euros. Tout cela par nécessité, mais aussi avec un message politique envoyé à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui se revendiquent des candidats...
Du pouvoir d'achat.
Voilà, oui, mais en même temps, c'est
déposer un projet de loi alors qu'il n'y a pas de Parlement, oui, ça en dit long sur la pratique.
C'est-à-dire miser sur le fait qu'on aura la majorité.
Pas forcément un projet de loi.
Pour aider les Français dans les meilleurs délais.
Oui, mais du coup, c'est paradoxal, parce que la Cour de cassation vient de valider l'une des réformes, en tout cas, d'Emmanuel Macron sur la question du plafonnement des indemnités en matière de licenciement, qui était une réforme qui était très contestée par les syndicats. Donc on voit bien un peu la contradiction qu'il peut y avoir dans la vision ou la politique ou le programme politique d'Emmanuel Macron. Voilà.
Après avoir fait patienter les Français, il ne faudrait pas qu'ils se plantent quand même, le président.
Alors,
c'est le seul commentaire que je risquerais.
Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, puisque, alors d'une part, il y a le syndicat de police Alliance qui dépose plainte contre Jean-Luc Mélenchon, après ses propos sur Alliance notamment, dont il disait qu'il demandait le droit de tirer sur les gens. Et puis, il y a aussi cette polémique autour de Tabouaps, un des candidats qui a failli être investi par la France Insoumise, qui finalement ne l'est pas. Il y a eu plusieurs signalements concernant Tahabouaf au sein de la France Insoumise, concernant des agressions sexuelles qu'il aurait commis. Présomption d'innocence, évidemment. L'enquête va sans doute démarrer. C'est important, évidemment.
Enquête interne, hein, pour l'instant.
Enquête interne, et on imagine que la justice va se saisir du dossier.
Je ne sais pas, en effet, peut-être.
Jeannette Bougrabe, qu'est-ce que
c'est ? J'ai un vrai coup de gueule, en réalité, parce que je trouve que cette grande cause qui avait été celle du quinquennat d'Emmanuel Macron sur la question des violences en général, sur les violences faites aux femmes, eh ben, elle a été décevante. Elle a été décevante parce qu'on le voit bien au quotidien, les femmes qui sont victimes de violences, par exemple de leur ex-conjoint, quand elles doivent se défendre, eh bien, elles doivent avoir les moyens financiers, par exemple, de pouvoir avoir un avocat pour pouvoir défendre leurs droits. On le voit encore qu'il y a encore... deux jours, je crois, il y a déjà eu un nouveau cas de féminicide. La question du harcèlement dans les partis politiques, eh bien, ça ne change pas. Vous pouvez avoir 23 ans et en fait avoir les mêmes pratiques. Donc c'est inacceptable. Et ce n'est pas la première fois, parce qu'il me semble que Sandrine Rousseau elle-même avait dénoncé des comportements
chez les Verts.
Chez les Verts. Et donc, pour moi, ça devrait être, mais de manière générale, un grand plan. Et j'étais touchée. Alors, je n'aime pas, évidemment, les mouvements de ces femmes.
De
oui, mais j'étais touchée par ces femmes qui ont témoigné avec Mediapart. Voilà. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, par exemple...
Pour la faire preuve d'avoir.
Mais je voulais juste un coup de gueule, et j'en profite, parce que, vous savez, une femme, quand elle a été... attaquée par son ex-compagnon, alors que le procès n'a pas encore commencé, c'est à elle de devoir se défendre, de se justifier, de devoir avancer un certain nombre de frais d'avocat, et tout ça est inacceptable. Voilà. Et je pense qu'il y a une grande réforme qui a été manquée, et qu'il y a des mots, mais il n'y a pas les actes.
Alors, Gilles Maintré, pour revenir sur le cas particulier de Tahabouaf.
Ah non, je n'ai rien à rajouter à ce que dit Jeannette Bougrave. Sur les violences sexuelles et sexistes, il faut la plus grande fermeté. Maintenant, il y a la présomption d'innocence, mais ça n'empêche pas que c'est un problème fondamental et qu'on trouve dans les partis politiques. Par ailleurs, il avait été condamné en première instance sur un injure raciale. Je pense que c'est surtout, ça montre ce qu'a été en fait que l'accord de la nouvelle Union populaire. Hein, c'était où on s'est mis d'accord sur des noms entre personnes dans un petit bureau, et voilà, il y en a qui ont eu de la chance au mépris de, voilà, au mépris de l'évidence politique, et donc on investit des gens comme effectivement Tabouaf, dont on, dès que le nom a sorti, on comprend qu'il ne faisait absolument pas l'affaire.
C'est une épine dans le pied de Jean-Luc Mélenchon.
On voit que Tabouaf ajoute à son CV, si je puis dire, des faits qui ne plaident pas pour lui. Le sujet, c'est que la France Insoumise veut investir et présenter une nouvelle génération, des jeunes gens issus du quartier. Bon, très bien. Le problème, c'est qu'ils usent beaucoup de la victimisation, mais derrière, ils ne sont pas du tout irréprochables, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a été condamné en première instance pour injure raciale. Là, il y a des faits de violence sexuelle, donc c'est problématique.
Jean-Claude Dacier.
Je crois que c'est un grand combat de la République, mais on vient de loin, sans aucun doute. Et hélas, on vient de loin. Je pense qu'on progresse, que culturellement, dans les têtes, les choses ont changé. Mais écoutez, on ne peut pas du jour au lendemain penser que, d'un seul coup, la France va, comme les autres pays et ses voisins, va devenir un pays parfait à tous égards. Il faudra des années pour que les choses évoluent dans certains milieux, dans certaines têtes. Mais culturellement, la volonté de les faire changer, les médias notamment, qui se saisissent à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, et là, ça arrive encore trop souvent, ça pèse. Ça agit sur les comportements. Petit à petit, les choses changent. On est dans la bonne direction.
Je crois qu'on
que
a
les
régressé.
Choses ne soient pas parfaites, c'est une évidence.
Non, bien sûr. Je pense qu'on a régressé. Parce qu'il y a, il y a 20 ans, par exemple, si on parle des questions de diversité, vous vous souvenez, il y avait eu le rapport, Claude Bébéard avait été à la tête d'un certain nombre de mouvements avec Malek Bouti sur le CV anonyme. On parlait du plafond de verre, on parlait de l'ascenseur social. Nicolas Sarkozy avait fait des nominations très symboliques avec Rachida Dati, garde des Sceaux. Et donc, quand même, il y avait eu aujourd'hui ces questions-là, on n'en parle pas. Et quand on parle de jeunes issus de l'immigration, c'est pour quand même, d'une certaine manière, les ghettoiser ou les réassigner en disant...
Je croyais qu'on parlait des féminicides et de la situation des femmes. Je suis un peu perdu. Je ne sais pas. C'est eu l'ascenseur social, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a des choses qu'il faut continuer d'améliorer.
Vous n'étiez pas sur le même sujet.
Non, alors sur la question, sincèrement, des femmes, on n'est pas bon, et pourtant, et je peux vous assurer que c'est vrai, quand vous êtes au quotidien, et moi il m'arrive d'accompagner des femmes pour porter plainte, qui les accompagnent alors même pas qu'il y a encore l'audience, c'est elles qui sont mises en accusation, c'est elles à qui on vérifie leur vie, si en fait elles n'ont pas réellement mérité les coups de couteau qu'elles ont eus, parce qu'elles étaient elles étaient comme ci ou comme ça. Et je trouve ça insupportable, voilà.
C'est la grande cause, donc ratée du quinquennat.
Oui, bien sûr.
Je crois qu'on est dans la bonne direction et que
il n'y aurait pas 122 femmes mortes.
Mais hélas, il faudra. On ne change pas du jour au lendemain des pratiques condamnables qui ont, hélas, dans ce pays comme dans les autres. Les choses changent, elles sont prises au collet par un certain nombre. Et des sanctions sévères sont prononcées.
Mais il ne faut pas croire que ça va changer
du jour au lendemain.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline sur Europe 1. Gilles Maintré, Alexandre Chauveau, Jeannette Bougrave, Jean-Claude Dacier. Bonne soirée à vous sur notre antenne. À 20h, les infos avec Alexandre Demers et Mouloud Achour, Verne Andogrande. Bonne soirée sur Europe 1.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.